Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Ma plaidoirie de la semaine porte sur la maltraitance qu'on peut faire à nos aînés. C'est un fléau maintenant dans notre société. Cette semaine, on a vu une autre histoire d'horreur au Marquisat de Montcalm. Où est-ce qu'il manquait de ressources? Où est-ce que les aînés étaient maltraités? Encore une fois, on ajoute à ça à des cas comme, bon, je te rappelle, le manoir Héron ou Héron, appelez-le comme vous voulez. Une histoire d'horreur des personnes âgées dans leurs excréments, des morts, beaucoup de morts causées par la COVID et autres, du personnel même découragé qui ont déserté, quitté les lieux. Ensuite de ça, il y a l'histoire du manoir Liverpool qu'on a vu. Ça faisait 5 ans que ça durait. Pendant 5 ans, il y avait des problèmes de maltraitance. On s'en rend compte plus tard. Et là, on se demande où était la supervision, le CIS qui doit superviser tout ça. On se demande toujours comment ça, il y a des permis qui sont émis, s'il n'y a pas de vérification adéquate. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme, c'est redondant, ça recommence. Et avez-vous peur de vieillir? Dans ces circonstances-là, à voir comment qu'on peut traiter nos aînés, moi, je trouve que ça paraît très mal pour une société de ne pas s'occuper de ses aînés. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut qualifier la société, sa qualité, à la manière bon, qui s'occupe des personnes âgées, aînées, qu'il faut dire. Et tout ça est problématique. Juridiquement parlant, il y a un problème. Suite à l'histoire du Marquisat de Montcalm, on a vu la ministre Marguerite Blais sortir dans les médias disant ben il faut faire quelque chose. On va vérifier l'émission des accréditations, que ça soit plus surveillé, plus sévère. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. On n'agit pas. J'ai l'impression que il y a et d'ailleurs, sachez qu'à l'émission, on va beaucoup parler de ça. Je reçois tout à l'heure un invité, on ne le nommera pas, mais sa mère doit obligatoirement faire ses excréments dans une couche. Donc, on a arrêté de lui permettre d'aller aux toilettes. On disait que c'est trop dangereux. Il y a un avocat, Maître Martin Ménard, là, qui est spécialisé là-dedans, va nous dire, est-ce que c'est légal de dire, ben, regarde, t'es trop vieux, là, fais tes excréments dans ta couche, là, c'est pas grave, vis avec ça, t'es plus trop capable de t'exprimer, mais regarde, c'est correct. Excusez, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de penser qu'on agit comme ça au Québec. Et je reviens à la problématique juridique entourant tout ça. C'est sûr que si vous êtes témoin, un membre de votre famille subit de la maltraitance, bien, vous avez un recours civil. Oui, vous pouvez, on l'a vu. On a vu déjà, il y a des actions collectives pour ces drames-là qui s'est passé. Donc, il y aura peut-être une compensation. Vous pouvez prendre une action civile. Si, par malheur, l'être proche décède, on peut faire un recours et c'est du solatium doloris, c'est un montant de compensation pour la perte d'un être cher. Mais qui veut se rendre là? On essaie, imaginez, quand on apprend que notre être aimé est maltraité. Il y a eu toutes des débats aussi pour ça, à savoir comment on peut s'en rendre compte, que souvent on n'est pas là, on visite, qu'est-ce qui se passe entre-temps. Il y a eu tout le débat des caméras, est-ce qu'on peut mettre des caméras dans les chambres, savoir ce qui se passe. Au final, oui, on peut mettre des caméras dans les chambres. Par contre, il faut aviser, il ne faut pas que ça soit fait en cachette, il faut quand même aviser. Bon, j'entends du monde dire « Ouais, mais là, s'ils savent qu'ils sont filmés, ils vont agir autrement. » Mais il y a eu, je dis qu'il faut que ça soit avisé, là, il y a eu quand même, même si c'est caché, là, ça peut servir quand même de preuve. C'est sûr que ça amenait tout un débat, je n'irai pas là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a des recours, mais on ne veut pas trop aller là. Il y a des accréditations, il y a plein de promesses de politiciens disant qu'on va être plus sévère, mieux vérifié. Mais là, on voit l'histoire du manoir Liverpool, ça faisait 5 ans. Puis ça fait plusieurs fois qu'on se rend compte que les directeurs, même des 6 qui doivent superviser tout ça, n'étaient pas au courant. Au final, c'est jamais de la faute à personne. Même les gestionnaires disent, ben, on se justifie, puis on voit pas de sanctions. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir le code criminel protège mieux les animaux que les personnes âgées. Je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais il reste qu'il y a un problème à savoir, même c'est la maltraitance, ça, c'est criminel. Il y a déjà eu des accusations criminelles qui ont été faites, on appelle ça de la négligence criminelle, c'est l'omission de fournir des soins à la vie. C'est comme ça qu'on réussit à faire des poursuites pour les gens qui ont mal agi. Il faut que, évidemment qu'il y ait une intention criminelle. C'est sûr qu'il y a un questionnement qui se pose quand il y a un manque de ressources, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut ces gens-là agissent avec diligence quand même, mais à un moment donné, ils peuvent être épuisés. Mais il y a des gens qui agissent mal. Et là, le questionnement qui se pose de plus en plus au Québec, c'est à savoir, bien, s'il n'y a jamais personne de responsable et qu'il n'y a pas d'exemple de donner parce qu'il n'y a pas de poursuite même aux criminels, comment ça va changer? Comment il va y avoir des gens qui peuvent être punis pour de la maltraitance ou d'avoir laissé faire la maltraitance? Et ça, c'est important de le dire aussi. Et c'est plus difficile d'aller poursuivre, même avec des accusations criminelles, le gestionnaire. Et ça, on l'a vu dans le domaine en droit du travail. Ça a été comme ça, il y a eu une évolution. Parce qu'au départ, c'était rare qu'on voyait des accusations criminelles contre des compagnies et des gestionnaires qui ont fait de la négligence criminelle. Et là, il y a un cas qui est quand même connu. C'est un employeur, gestionnaire du chantier, et il y a une tranchée qui est non sécurisée. Il envoie son employé là, il y a un mur qui cède, écrase l'employé. Et là, il y a des accusations criminelles contre le gestionnaire et contre la personne qui a pris la décision. C'est ça la différence. C'est conscientiser que la façon qu'on va gérer a des conséquences, qu'il peut y avoir des morts. Et c'est ça la différence. Même, il y a une histoire en droit du travail. C'est une compagnie minière qui envoyait des miniers dans le sous-sol, si on peut dire. Il y a un ascenseur. Et il y a quelqu'un qui avait débranché le système d'alarme. Parce qu'il y a une sorte de système d'alarme. S'il y a de l'eau, si c'est les galeries, là, la mine est inondée, bien, il y a une alarme. Ce qui s'était passé, c'est débranché, on s'en fout un peu. Et là, on a descendu l'ascenseur. Là, il y a des miniers qui sont décédés. Encore une fois, avant, on n'accusait pas beaucoup. Là, on s'est mis à accuser en domaine du travail. Il y a aussi cette histoire du camionneur. Là. Lui, il disait souvent, il dit « ça n'a pas d'allure, mon camion n'est pas en état, je vais finir par me tuer ». Il disait à ses proches, et le pire est arrivé, les freins ont lâché dans une côte, il est décédé. Et encore là, on a poursuivi le gestionnaire, l'employeur, en négligence criminelle causant la mort. Et on a eu du résultat, des condamnations. Mais je vais vous dire, quand on sait, malheureusement, là, la société fonctionne comme ça, quand on sait qu'il va y avoir une punition, si nos gestes peuvent être sanctionnés, bien, je pense que tout le monde est beaucoup plus vigilant. Puis dans le domaine des aînés, il va falloir mener que ceux qui laissent faire ça, les gestionnaires, les propriétaires qui laissent faire de la maltraitance et que cette maltraitance-là est tellement grave que ça cause la mort ou des lésions, bien, il va falloir qu'il y ait ce genre de poursuite-là. Et pour ce qui est des accréditations, Ben, tu sais, c'est comme les garderies. Je pense qu'il y a eu une évolution aussi. On ne peut pas laisser faire dans les garderies, donner des permis à tout le monde, puis attendre qu'il arrive des accidents ou des drames. Il faut être sévère, il faut vérifier. Faut pas apprendre à attendre des années pour aller voir. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des gestionnaires qui se préparaient à la visite des inspecteurs. Ça, ça n'a pas d'allure non plus. Ça prend un système de vérification. Quand il y a des personnes placées comme ça, on veut être sûr qu'ils sont en sécurité. Donc, c'est vraiment tout ce débat-là que je veux amener, qui est temps que ça change. Et je vous rappelle que tout à l'heure, cette entrevue-là, est assez, tu sais, je veux dire, il y a pire comme maltraitance que de forcer quelqu'un à faire ses excréments dans une couche. Alors, on a vu des cas de déshydratation, j'ai la misère à dire le mot, de gens qui ne sont pas nourris adéquatement, qui sont laissés à eux-mêmes. Mais il y a tout le côté humain. Le côté humain qu'on est en train d'oublier. Et il y a toute cette problématique-là du système, de manque de ressources. On a voulu, et la pandémie a fait craquer le barrage, on s'entend. Ça faisait longtemps qu'il y avait des problèmes dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées. Manque de ressources, préposé aux bénéficiaires qui a un métier qui n'est pas assez valorisé, pas assez payé, parce qu'on en a besoin, puis c'est tout le manque de ressources vient de là. Et ça prend des drames par-dessus drames. À un moment donné, je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir une action gouvernementale et que la ministre, justement, Marguerite Blais, qui est déjà là, retenez-le, avec l'incident du Marquisat de Montcalm et celui juste avant, Manoir Liverpool, qui était outré de ça, qui a dit « On va changer les choses. Ça n'a pas de sens que nos aînés puissent risquer même d'être traités comme ça. » Donc, on attend des décisions, des changements. Puis je vous invite tout à l'heure à écouter l'entrevue et écouter l'avocat qui nous dira c'est quoi la légalité là-dedans, jusqu'où on peut aller en laissant faire des soins. On écoute ça tout à l'heure.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On va parler maintenant du vaccin AstraZeneca qui a fait les manchettes beaucoup cette semaine.
Puis la semaine passée aussi.
La semaine dernière aussi. Beaucoup de questionnements qui se posent parce que là, on a au début de la semaine, là, on se rend compte qu'il y a 12 pays européens qui suspendent le vaccin à cause de thromboses que ça pourrait causer. Par la suite, on se pose la question, est-ce qu'il est sécuritaire? Du côté du Canada, sur le coup, je me disais, coudonc, on se pense plus intelligent que tout le monde? On ne suspend pas, mais il y en a qui suspendent. Bon, qu'est-ce qui se passe?
La France,
c'était pas supposément la même batch, comme on dit. Et là, on a appris aussi qu'au Canada, il y avait eu un cas de thrombose suite à la vaccination d'AstraZeneca. On se pose des questions, on dit « Ah, il est sécuritaire, la COVID, il faut la combattre. » On comprend ça. Sauf des fois, c'est comme dans l'avion, tu dis « Les avions ne tombent pas d'habitude, mais si c'était mon avion qui tombe, le vaccin, si ça m'arrive, qu'est-ce qui arrive? » Donc, vous reconnaissez la voix de Maître Boily, là, on jase, comme on dit.
Jase.
Qu'est-ce qui se passe avec le vaccin? Est-ce que... bon, légalement, là,
ouais,
c'est mais... quoi, là, au début de la semaine, il y avait ce principe de sécurité,
De pas prendre de chance lorsqu'on a un doute. Ouais, mais ça, écoutez, moi, je vous chanterais, vous savez comment je suis.
Mais c'est un principe, c'était la Convention de Rio.
La Convention de Rio de 92, vous l'avez cité dans votre blog cette semaine, bravo.
Le principe de précaution.
Oui, de précaution, exactement. Mais je vous dirais, comme la petite chanson, là, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Souvenez-vous de ça, c'est Pétula Clark.
Non, je ne me souviens pas de ça.
pas de votre temps. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde veut avoir le meilleur et tout le monde a peur. Bon, là, vous l'avez dit, est-ce que le Canada est plus intelligent que les autres pays? Ben peut-être que oui, peut-être que non. Le principe que vous venez d'émettre là, il y a le Code civil aussi qui prévoit qu'on peut pas prendre de chance, puis en matière de santé publique, pas plus. Lorsqu'il y a un doute, si le doute est raisonnable, dans le doute, on dit tout le temps « abstiens-toi hein? ». C'est une règle de droit, ça. Dans le doute, abstiens-toi parce que tu sais pas, va-tu aller à gauche, va-tu aller à droite. Alors là, cette semaine, ce qu'on a vu, évidemment, l'Union européenne, l'Agence européenne des médicaments a annoncé jeudi, ben ça faisait leur affaire aussi, là, que finalement, le vaccin AstraZeneca, il n'y avait pas nécessairement trouvé des relations avec les gens qui ont eu de la coagulation ou qui ont eu des problèmes au niveau de thrombophlébite, des choses comme ça, je sais pas quoi. Là.
Ils ont remis le vaccin en vigueur.
Exact, ils l'ont remis en vigueur partout, mais il faut comprendre, là. Des zones, le vaccin AstraZeneca, il y en a des millions de disponibles. Mm-hmm. Et là, en Europe, en Italie, ils ont recommencé à confiner. Alors, eux autres, là, je vous donnerai un exemple. Écoutez, là, on est devant une pandémie qui est comme une guerre, là, puis on dit, écoutez, là, moi, j'ai un chargeur, là, il y a des gens qui s'en viennent en face de moi, il y en a 10 qui s'en viennent avec des mitraillettes, là, ça s'appelle le virus, OK? Puis là, j'ai un chargeur à côté de moi, j'ai 10 balles dedans. Et puis, il y en a un petit peu plus loin, là, mais il est plus loin. Lui, il y en a 15. Ben, je fais quoi, là? J'attends-tu que les 10 arrivent sur moi, puis aller chercher le chargeur à 15, ou je prends tout de suite le chargeur que j'ai à 10, puis je tue les 10 qui veulent mon virus? Ben, c'est ça, finalement. Là, on est là, puis on essaie d'être plus blanc que blanc, puis on cherche à avoir un vaccin parfait. Ça n'existe pas. Tous les vaccins ont des problématiques, comme dans toutes la science, c'est toujours comme ça. La médecine, vous savez, c'est pas comme le droit. Le droit est une science exacte, n'est-ce pas?
Mais, hey,
alors, la médecine, c'est une science... Non, on fait des blagues. La médecine, c'est une science inexacte. Alors, c'est essai-erreur. Maintenant, là, il y a eu des problèmes. Vous dites qu'il y en a eu un au Québec là, cette semaine. J'ai eu
non, c'est pas lié, là. Ce qu'on veut pas faire, c'est de nuire à la vaccination. Il y a eu ces questions-là. Puis il y a notre ministre de la Santé qui a été vacciné, M. Dubé, avec l'AstraZeneca.
Oui, ils ont montré la fiole. Il y en a qui disent que c'était peut-être un placebo, c'était pas un vrai. Je ne dirais pas qui me dit ça tout à l'heure hors d'onde, mais je vais le regarder. Mais il reste que... Non, il donne l'exemple, puis je pense que c'est très bien ainsi. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir d'autres réactions sur d'autres vaccins? Il n'est pas impossible. Mais là, on va rassurer un petit peu les gens. Parce que nous autres, on est des avocats. Puis s'il arrive des erreurs, la loi prévoit qu'il peut y avoir des gens qui vont être indemnisés s'il y a des victimes de vaccination. On ne parle pas de décès nécessairement. Oui, s'il y a des décès, mais la loi a prévu ça. Vous savez, des fois, le législateur, dans sa grande sagesse, les gens qui siègent ici, tout près à l'Assemblée nationale, où on a nos studios, là, ben, des fois, ils sont intelligents quand ils font des lois. Hein? Des fois, ça arrive. Ça arrive que le gros bon sens s'applique. Puis dans la section 3 de la loi sur la santé publique, il y a une section pour l'indemnisation des victimes d'une vaccination. Donc, on a déjà prévu que ça se peut, que ça arrive, qu'un vaccin qu'on va administrer à quelqu'un, comme ça arrive dans toutes les sortes de vaccins partout à travers le monde depuis des décennies, depuis qu'il y a des vaccins, depuis que Pasteur a trouvé des premiers vaccins. Là, je suis pas sûr si c'est lui le premier, mais il y en a peut-être d'autres, mais peu importe. Donc, la pénicilline à l'époque. Et si y a quelqu'un qui a une mauvaise réaction, ben la loi prévoit des indemnités. Bon, évidemment, on souhaite que personne ne va décéder de ça.
Ben on souhaite pas être obligé de se prévaloir de ce programme-là.
Non, pas du tout.
Mais tu sais, AstraZeneca, on s'entend s'il y a des millions de vaccinations.
Oui.
C'est un vaccin anglais où est-ce qu'il y a des millions de personnes vaccinées. Les risques sont faibles. On comprend bien le principe qu'il faut l'avoir quand même. Là.
Exact.
Mais c'est sûr que ça fait réfléchir. Et d'ailleurs, là, ce qu'on sait, c'est que je pense qu'ils vont... Parce que des thromboses, c'est pas arrivé avec d'autres vaccins. Bon,
pas encore.
Il n'y a pas de lien direct. Mais là, on va quand même... Il y a un journal canadien qui disait qu'il allait mettre des avertissements sur... à savoir qui mettra un avertissement.
Oh oui.
Parce que légalement, la responsabilité... S'ils ne mettent pas d'avertissement puis qu'il arrive de quoi... ils peuvent être responsables
fait,
également.
La responsabilité civile des pharmaceutiques, elle est là, elle est claire. Vous pouvez, d'ailleurs, dans la loi, il est prévu que si quelqu'un est responsable, la loi, écoutez, c'est un peu comme l'assurance maladie, mais mieux faite. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que si quelqu'un subit un préjudice et qu'il est capable de donner ou de faire la preuve que ce préjudice-là a été provoqué par exemple, un médicament qu'il aurait reçu, mettons que c'est AstraZeneca ou Pfizer ou Moderna ou n'importe qui, puis il est capable d'en faire la preuve, le gouvernement pourrait, lui pourrait demander à cette personne-là une indemnité, mais il faut faire la preuve, là, on est en droit, c'est pas évident à faire, écoutez, là, ils s'entendent même pas, les spécialistes internationaux, bonne chance.
Mais c'est pas des grosses indemnités.
Non, mais ça pourrait, s'il y a décès, par exemple, la succession pourrait dire, écoutez, moi, mon père ou ma mère est en très bonne santé, s'est fait vacciner pour sauver le vaccin, pour sauver la COVID, pas être atteint de cette maladie-là. Puis, en contrepartie, ben il est décédé. Alors, il pourrait y avoir une poursuite importante. Maintenant, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est des indemnités qui sont prévues dans la loi d'assurance automobile, sauf qu'il y a une exception qui dit que le ministre va indemniser sans égard à responsabilité, mais si quiconque décide de poursuivre un tiers, par exemple AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou autre, ou Johnson & Johnson, ben on pourrait peut-être à ce moment-là prévoir une indemnité qui pourrait être demandée devant un tribunal compétent, la Cour supérieure, en l'occurrence, si on parle de plus de 85 000 $. Maintenant, à partir de là, le gouvernement pourrait revenir rechercher dans les poches de la personne ou de la compagnie responsable le montant qu'il aurait versé à cette victime-là. Mais la victime, ça ne l'empêcherait pas d'avoir un recours contre cette industrie-là. Ils ont des assurances. Mais là, il y a une chose importante. On peut pas poursuivre le gouvernement pour ça. Ça, il y a des exceptions prévues à la loi. Le directeur national de la santé publique, touchez-y pas.
Ouais, mais là, je vais vous poser une colle parce qu'on sait qu'un vaccin, c'est un bien meuble, selon le Code civil du Québec. Ouais. Et le bien meuble, il y a une garantie, il doit être sécuritaire.
Il doit donner le résultat escompté en fonction de ce qu'on serait censé recevoir.
C'est ça. Sécuritaire.
Oui.
S'il l'est pas, ça prend ce qu'on dit que certaines personnes vont faire un avertissement, comme on voit ces pots de Tinella. Il peut y avoir des avertissements.
Ne prenez pas tout le pot, vous risquez d'être malade.
Des fois, c'est assez évident.
Ouais.
Bon, et là, c'est la loi, mais on sait que dans le Code civil, le responsable, c'est le fabricant, Pfizer, mais pas Pfizer, mais dans ce cas-là, ce sera AstraZeneca.
Ben, si, c'est ça.
Et le distributeur.
Oui.
C'est le gouvernement.
Ben non, c'est que la loi prévoit une exception, et c'est là la beauté du geste, c'est que le gouvernement a dit, moi, je prends des décisions de santé publique, moi, je ne suis pas un fabricant, je suis quelqu'un qui écoute la santé publique, qui écoute les directeurs nationaux ou régionaux, appelez-les comme vous voulez.
C'est un distributeur, mais vu qu'il est de bonne foi, il ne peut pas être poursuivi.
Ben, il ne peut pas se poursuivre parce qu'il y a une exclusion prévue dans la loi. Mais ça, c'est de bonne guerre, parce qu'on dit, d'un autre côté, on va vous donner des indemnités minimales, ou en fait, ceux qui sont prévus par la loi sur l'assurance automobile, et à ce moment-là, on sait que les personnes qui vont être victimes, qu'il y a eu une inflammation, et là, il y a des barèmes prévus, si vous avez perdu la vue, vous avez perdu l'odorat, l'ouïe, etc., on sait d'avance, comme par des points de pourcentage, comment vous allez recevoir. Donc, le gouvernement, il se couvre d'un côté, mais il se rend responsable de l'autre en disant, je suis un bon gouvernement, je vais vous indemniser en fonction de la loi d'assurance automobile. La beauté de cette loi-là, c'est la santé publique, c'est qu'il pourrait y avoir un recours, parce qu'en matière d'assurance automobile, oubliez ça, là, à moins qu'il y ait quelque chose de criminel, vous ne pouvez pas poursuivre la personne qui vous a causé un dommage, c'est ce qu'on appelle la paillette, là, c'est-à-dire c'est l'indemnité qui est prévue dans la loi avec les barèmes qui sont prévus. Or, dans la loi sur la santé publique, on a fait un petit accro à cette façon de procéder-là en disant, si vous voulez poursuivre la personne responsable, autrement dit, la pharmaceutique, peut-être les gens qui vous ont piqué, ça, je suis pas convaincu parce qu'il y a une exception prévue dans la loi.
Oh, oui, c'est ça.
Mais ça pourrait être les pharmaceutiques, l'exception est prévue pour ça. Là, vous pourriez le faire quand même. Évidemment, armez-vous de patience, parce que ça vous prend des experts et ça coûte cher, puis ils sont pas évidents à trouver nécessairement, mais vous allez peut-être en trouver. Il va falloir payer les avocats également. Donc, mais il pourrait y avoir des recours collectifs. Vous savez comment que les gens aiment ça ici au Québec, les bureaux d'avocats. Donc, il pourrait y avoir un recours collectif qui viendrait peut-être, s'il y en avait plusieurs cas, là, qui viendrait faire peut-être cette démonstration-là, puis en poursuivant, évidemment, écoutez, c'est des pharmaceutiques mondiales, ça serait des millions de dollars.
Ouais, mais on souhaite
peut-être la peine. Mais ça, on verra ça une autre fois.
Ouais. Maître Boily, c'est éclairant. Moi, je prends 30 secondes pour, parce que là, vous faites peur. On fait
non,
peur.
Non, pas peur. On dit mais la réalité.
C'est des si, hein. Des si. Avec des si, on mettrait Paris exact. Dans une bouteille.
Exact.
Et on tient à dire aux auditeurs, faites-vous vacciner.
Oui. Ça, tout le monde, les vaccins.
Je veux dire, les chances qu'il y ait un problème, puis c'est même pas prouvé.
Non.
Et on sait que les pays européens ont remis le produit en vigueur. Donc, on va pas. Au final, là, on ne serait pas dans les poursuites. Là. Ça serait vraiment exceptionnel qu'on voit ça. On l'espère. Mais faites-vous vacciner. Merci, Maître Boily.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
On parle depuis quelques semaines de situations. On dénonce des situations vis-à-vis de la maltraitance qui est faite envers nos aînés. Nos aînés, nos parents, nos sœurs, des gens respectables qui, en fin de vie, peuvent avoir des problèmes cognitifs. Peuvent être dans des centres de personnes âgées, dans des CHSLD, dans le système public, privé. Mais on a vu des histoires d'horreur où est-ce qu'il peut y avoir de la maltraitance. Il faut faire attention à nos aînés. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent. On se dit, bon, ils n'ont pas conscience vraiment de des choses. Des fois, on pense ça, mais il y a des humains derrière de ça. Il y a une famille. Et il y a quelqu'un qui nous a contacté, qu'on nommera pas pour l'instant, qui voulait dénoncer une situation avec sa mère, une situation difficile qu'il vit. Et là, on se pose des questions, on se dit, est-ce que le système est vraiment comme ça? Parce que c'est en lien avec les besoins qu'elle a à faire. Imaginez, on la force à faire ses besoins dans une couche. Bon, est-ce qu'on est rendu là, au Québec, de mettre des protocoles comme ça pour la sécurité des employés, pour la sécurité de la dame? Est-ce que c'est une bonne excuse? C'est questionnable. On l'a avec nous, M. X, qu'on va appeler pour les fins de l'entrevue, qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, vous vivez des moments difficiles. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec votre mère.
Oui, maître, c'est des moments très, très, très difficiles que je vis présentement concernant ma mère qui est dans un CHSLD. Mm-hmm. Et puis, d'environ deux semaines et demie, la direction, ont décidé à tous les ans, c'est des rencontres annuelles avec les membres de la famille pour savoir où est-ce que la personne, la résidente, est rendue là dans sa maladie, là, mm-hmm. Le problème cognitif un petit peu. Puis ils ont décidé que ils n'ont plus de soins de vouloir d'aller faire ces choses dans une toilette ou dans une chaise bassine. Donc ils ont décidé que c'était fini, qu'il y a d'autres règles, autrement dit là. De faire ces choses dans sa couche là, dans sa culotte là, tu sais. Puis c'est une madame qui me reconnaît à toutes les fois que je la vois là, parce que c'est ma mère, puis mm-hmm. Elle a des petits problèmes cognitifs, mais sauf qu'elle a encore la sensation et le besoin de vouloir aller faire ces choses là naturelles dans une chaise bassine ou dans une toilette. Mm-hmm. Donc moi je suis un proche aidant pour elle parce que je vais la voir à tous les soirs et ainsi les fins de semaine le jour et le soir. Donc je connais très bien ma mère. Elle a de la difficulté à dire ces choses que quand elle a envie. Mais on peut constater par son agissement, elle devient pas de bonne humeur quand elle a envie, elle se retient beaucoup et puis elle devient pas de bonne humeur, puis elle devient claire tout le temps. Puis moi, quand je suis avec elle, je lui demande « Est-ce que, maman, tu as envie d'aller faire des choses, d'aller faire ton pipi ou bien des selles ou quoi que ce soit? » Elle me répond tout le temps « Oui, j'ai envie. Mm-hmm. » Elle est capable de s'exprimer. C'est la seule façon de s'exprimer comme ça, par des pleurs, puis par une mauvaise humeur. C'est des réactions qu'une personne qui a des petits problèmes cognitifs
va s'exprimer, là. Il y a une forme d'expression,
exactement.
Là.
Exactement. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Là, moi, avec l'aide, auparavant, avant que la direction décide d'arrêter, de l'aider à défaire ses choses dans une toilette ou dans une chaise bassine, avant ça, j'avais loqué de la direction que c'est moi qui l'aidais le soir, là, quand j'allais la voir, puis de l'aider à se tenir debout avec... Puis de l'emmener sur la toilette ou bien sur la chaise bassine avec l'aide d'un préposé. Mm-hmm. Puis on dit aux autres, la direction a dit que c'était fini parce que c'était rendu dangereux.
Ben c'est ça. Là, il arrive. Vous avez eu une rencontre où est-ce qu'ils prennent une décision? Et ils disent là, qu'il va devoir faire ses besoins dans sa couche. Expliquez-nous les raisons. Là. Pourquoi? Là?
Les raisons, ils ont dit qu'elle ne comprenait plus les consignes et puis c'était rendu dangereux pour sa sécurité, ainsi pour le personnel. Fait qu'ils ont décidé, eux, de dire que c'était fini. Puis ils ont quand même menacé un petit peu, là. Ils ont dit que si moi je l'aidais toute seule à l'emmener faire ses choses, ils m'ont dit que ça pouvait aller par l'entremise d'une lettre qu'ils m'ont envoyée par un huissier chez moi. Ils ont dit que ça pourrait aller peut-être jusqu'à l'expulsion de la résidence.
Donc, vous avez même plus le droit de lui offrir ça, de pouvoir aller aux toilettes. Il dit que c'est dangereux pour elle. Est-ce que c'est une personne qui a de l'embonpoint, qui pèse...
Non.
Non?
Non. C'est une personne qui pèse à environ 130 livres, là. Mm-hmm. Pas dans bon point, puis est capable de capable quand même de se lever toute seule, mais avec de l'aide. Là,
okay.
Parce que c'est une personne qui ne marche quasiment plus, elle est tout le temps dans une chaise roulante, mais elle se déplace pour se promener un peu partout là, dans la résidence. Là, puis, mais elle est capable de, quand que je lui dis qu'on va se lever, mais elle se prend après ses barreaux de lit. Là, c'est, mm-hmm. Elle est capable de se lever là, avec mon aide. Puis avant ça, on avait l'aide aussi d'un préposé. Il était là quasiment pour m'assister.
Puis, mais en temps normal, c'est au préposé à permettre aux résidents d'aller aux toilettes. Est-ce que vous pensez que c'est par manque de personnel qu'on a pris cette décision-là? Parce que deux préposés peuvent, avec ce genre de poids-là, peuvent lever la personne et la lui permettre d'aller aux toilettes. Là.
Oui, mais sauf que moi, c'est une entente avec la direction. Mmh. Avec la direction que moi, je dis, je vais prendre la place d'un préposé le soir quand je vais voir ma mère. Je vais soulager un petit peu les tâches des préposés, mais non, à ma connaissance, depuis l'ajout de plusieurs préposés là, dans ce que M. le Premier ministre Legault a fait là, en engageant plusieurs préposés, ça s'est comme stabilisé là. D'après ce que je vois, moi là, c'est sûr que c'est pas la c'est pas idéal à 100%. Là.
Mais vous, on vous dit que c'est une procédure normale avec le niveau de conscience qu'elle a. C'est normal de ne plus lui permettre d'aller aux toilettes. C'est ce qu'ils vous disent, là.
Oui, c'est ce qu'ils me disent. Le médecin du CIUS l'a évalué. Et puis, dans son évaluation, on dit qu'elle ne comprenait plus les consignes et n'était plus capable de fonctionner puis de répondre aux besoins, là, je veux dire, pour pouvoir faire ces choses.
Puis donc,
moi, oui.
Ouais, allez-y.
Oui, puis moi, comme je vous ai dit tantôt, je suis un proche aidant pour ma mère, et puis je suis là 6 jours par semaine. Puis j'ai quand même des petites vidéos que j'ai filmées à tous les soirs, que je pose des questions. Je pose des questions à ma mère. Est-ce que tu as envie d'aller uriner? Puis elle est là pour me répondre oui, j'ai envie. Puis est-ce que tu veux faire ça dans ta culotte? Non. Puis on voit qu'elle pleure. On voit aussi qu'elle est malheureuse. Elle souffre beaucoup. Ça, je peux vous avouer qu'elle souffre beaucoup. C'est inacceptable. C'est inacceptable de la part de la direction d'avoir décidé que de la faire souffrir. Moi, je trouve ça inacceptable. Puis je peux pas m'imaginer là qu'on puisse faire ça à des aînés, des êtres humains. Je ne peux pas m'imaginer qu'on est rendu là.
Effectivement, c'est inhumain. Quand vous m'avez soumis cette problématique-là, honnêtement. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal de devoir en venir là? Je sais qu'il y a toute une gestion qui vient avec nos aînés, mais c'est sûr que sur le principe moral, sachant qu'elle peut sentir qu'elle ne peut pas faire ses besoins, c'est terrible de voir qu'en fin de vie, on a de ce genre de conditions. Et monsieur, on va enquêter un peu là-dessus. Et après, on vous entend la problématique. Après votre entrevue, on va recevoir un spécialiste qui va nous expliquer si c'est normal de se rendre jusque-là. Est-ce que c'est des protocoles qui sont acceptés? Mais on vous comprend. Il y a personne dans notre société qui veut voir sa mère dans cet état-là et ne pas pouvoir l'aider. Est-ce que la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un problème de personnel ou c'est normal, ce protocole? Donc, on va vérifier ça pour vous, puis soyez à l'écoute, on va recevoir le spécialiste. Et monsieur, on vous souhaite que la direction entende. Je pense que ça serait normal, du moins, de trouver des solutions pour que cette personne-là puisse aller faire ses besoins dans la dignité au lieu d'être obligé de faire ça dans sa couche. Merci beaucoup de nous avoir fait part de ce témoignage.
Est-ce que je peux rajouter d'autres choses?
Oui, allez-y. Il nous reste environ 30 secondes, mais allez-y.
OK. Moi, j'ai un cri du cœur que j'ai fait auprès de la ministre Marguerite Blais. Et puis, je lui ai écrit disant la problématique. Puis, j'attends toujours une réponse là, de son cabinet. Et puis, j'ai écrit aussi au premier ministre Legault le sensibiliser à ce sérieux problème-là, problème militant inacceptable. Donc, j'attends des réponses aussi.
Bon, mais c'est enregistré. On espère avoir une réponse de la ministre Blais, parce qu'elle semble, depuis quelques semaines, avoir à cœur la situation des aînés. Et il faut que ça cesse. Il faut qu'ils puissent avoir les soins, les services adéquats. Donc, vous nous tiendrez au courant là, si vous avez une réponse. Merci beaucoup. Parfait. Bonne journée.
Merci bien. Bonjour.
Bye.
Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict
avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Cette entrevue avec le monsieur dont sa mère, bon, il y a eu une décision de l'hôpital où est-ce qu'on ne veut plus déplacer sa mère, la lever pour aller faire ses besoins. Donc, elle se doit maintenant de faire ses excréments dans sa couche. Bon, c'est une chose qui choque, qui frappe la famille parce qu'on se dit, elle semble avoir conscience de tout ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? On en parle avec Maître Martin Ménard qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que c'est normal ce qui se passe avec l'entrevue qu'on a entendue avec ce monsieur, là, dont sa mère est en CHSLD, et là, il y a un protocole d'établi. Est-ce que c'est normal ou c'est inhabituel?
Bon, écoutez, évidemment, on n'a pas tous les détails au niveau médical, là, mais à la lumière de l'information qu'on a, il semble s'agir d'une situation qui est vraiment inacceptable, parce qu'on a là une personne qui aurait encore apparemment la capacité d'exprimer qu'elle doit aller à la toilette pour des raisons administratives ou de sécurité de personnel ou autre, mais on en vient à ne pas être capable de trouver aucune solution pour être capable de l'amener à la toilette. Donc essentiellement, on la force à faire ses besoins dans sa couche, ce qui est une atteinte importante là, à sa dignité et à ses droits fondamentaux.
OK. Donc, c'est pas seulement dire on a un manque de personnel ou c'est trop dangereux pour elle d'aller aux toilettes ou pour notre personnel pour la soulever. C'est pas seulement de dire ça. Là. Il faut vraiment qu'il y ait une preuve que la personne n'a plus connaissance du tout qu'elle doit faire ses excréments dans sa couche. Là.
Mais c'est ça, ou une personne qui est incapable de l'exprimer ou une personne qui est incontinente. Mm-hmm. Il y a un problème d'incontinence qui fait en sorte qu'on ne peut pas l'aider à faire ça. Mais de façon plus large, vraiment, on devrait toujours tout mettre en œuvre pour être capable de préserver là, l'autonomie résiduelle des personnes en perte d'autonomie. Puis malheureusement, ce qu'on voit en CHSLD trop souvent, c'est qu'il y a des gens qui sont placés là, qui ont quand même une bonne dose d'autonomie résiduelle à leur arrivée. Mais à cause de la situation, à cause du manque de personnel, du manque de ressources, ben leur déclin en CHSLD est très rapidement précipité. Là. Puis ils perdent rapidement l'autonomie qu'ils avaient. Puis c'est une situation qui est vraiment inacceptable. C'est malheureusement pas un cas isolé. On est régulièrement confronté à des cas comme ça. Et c'est vraiment, personnellement, c'est un des aspects de toute la situation qu'on voit en CHSLD qui m'horripile le plus, d'être confronté à des situations comme ça.
Ben oui, puis c'est compréhensible. Mais que fait la famille quand elle est confrontée à ça? Parce que tout semble protocolaire, disant « Monsieur, voici, c'est la situation. Qu'est-ce que peut faire cette famille-là s'ils ils veulent qu'il y ait des mesures de prise? »
Bon, évidemment, il y a un mécanisme interne de plainte là, qu'on appelle le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Donc, ils peuvent porter plainte. S'ils font une plainte, en fait, ils peuvent le faire verbalement ou par écrit. Nous, on conseille toujours à nos clients de le faire par écrit. Mm-hmm. Ils vont recevoir une réponse écrite. Le délai que la loi donne au commissaire pour faire enquête et transmettre ses réponses est de 45 jours. Dans les faits, ce délai-là est souvent prolongé, surtout dans le contexte actuel.
Okay.
Mais ça, c'est un mécanisme quand même qui peut apporter, disons, un résultat rapide. Si on a un commissaire qui va vraiment aller au fond des choses, qui va bien faire son travail, qui va proposer là, des recommandations constructives, puis généralement, ça apporte certains changements. Si jamais la personne ou la famille n'est pas satisfaite des conclusions du commissaire aux plaintes, ils peuvent s'adresser à ce moment-là au protecteur du citoyen.
Mm-hmm.
Et le protecteur du citoyen, évidemment, qui est complètement indépendant là, des établissements et qui va aussi justement mener enquête et rendre ses conclusions, faire des recommandations. Donc, puis de facto, on a vu beaucoup le protecteur citoyen intervenir là, dans des situations de maltraitance dans différents CHSLD. Donc, il y a quand même des points très positifs à ce niveau-là.
Donc, ça vaut la peine de faire les démarches. Est-ce que quand même le protecteur citoyen peut, la première plainte peut être traitée dans les 45 jours plus rapidement, dépendamment de l'urgence. Est-ce que le protecteur des citoyens va se pencher sur le dossier rapidement, vu que...
Oui, c'est clair. Puis d'ailleurs, vous le mentionnez effectivement, le commissaire aux plaintes, en fait, s'il y a une situation de maltraitance, peut intervenir de façon urgente. Okay. Évidemment, ça relève de son appréciation à lui de la situation. Donc, évidemment, si ça arrive qu'on demande des interventions urgentes, que ces interventions-là n'ont pas lieu à la vitesse à laquelle elles devraient avoir lieu. Le protecteur citoyen, de même aussi, est maître de son échéancier. Là, peut décider d'intervenir rapidement. Ils l'ont déjà fait dans des situations où c'était nécessaire.
OK, je comprends. Et le monsieur disait avoir écrit à la ministre Blais, ça, je veux dire, le cabinet du ministre doit rarement intervenir dans des situations particulières.
Ben, on voit souvent la ministre Blais qui fait des déclarations publiques là, dans lesquelles elle identifie certaines situations comme étant inacceptables. Maintenant, l'action corrélée à ça qu'on voit n'est pas toujours pas toujours proportionnelle à ces déclarations-là, malheureusement. Donc, mais je vous dirais ceci dit, c'est important de le faire. Et c'est important que les instances décisionnelles soient informées de ces situations-là, parce que il s'agit véritablement de cas de maltraitance. Le fait de forcer une personne à porter une couche quand c'est pas requis par sa condition, c'est une forme de maltraitance. Et ça, je pense que c'est important qu'on le dénonce haut et fort. Maintenant, il peut très bien avoir des raisons médicales concernant l'état de la personne qui nécessite le port d'une culotte d'incontinence, mais ça devrait être exceptionnel, ça devrait être rigoureusement étudié puis révisé pour être certain qu'on met tout en œuvre pour assurer la dignité de la personne. Ça, c'est un droit fondamental des usagers du système de santé. La loi sur les services de santé et les services sociaux, donc que toute personne a droit à des soins adéquats à la fois au plan humain, social et scientifique. Mais donc le plan des soins adéquats au plan humain, définitivement, ça inclut définitivement la situation qu'on parle.
Je comprends. Donc, s'il y a un avis du médecin disant non, c'est forcé, obligé, cette personne a besoin d'avoir une couche là, ça pourrait passer parce que c'est vraiment un avis médical. Est-ce que des fois, les médecins prennent ça trop à la légère, disant « ben, elle semble pas consciente, c'est correct » ou est-ce qu'on peut assister à ça, que les médecins rendent des décisions comme si c'était correct, mais en réalité, il y a plus de subtilité parce que dans le cas qui nous occupe, cette dame-là ne parle pas vraiment, ce que j'ai compris, mais va exprimer des pleurs ou des sentiments pour se faire comprendre vis-à-vis son fils. Là.
Oui, c'est certain. C'est certain que c'est pas le fait qu'on ait un avis médical, là, ce n'est pas parole d'évangile. Hein. On peut très bien remettre ça en question. Et d'ailleurs, si une famille n'est pas satisfaite de l'opinion d'un médecin, elle peut toujours aller chercher une deuxième opinion là, pour valider les éléments qui sont mentionnés. Okay. Parce que c'est quand même une décision majeure, n'est-ce pas, de faire passer une personne d'une situation où elle est autonome à une situation où on va lui mettre des culottes d'incontinence. Mm-hmm. Puis d'autant plus si la personne réagit comme de façon négative ou qu'elle est j'ai déjà vu par le passé des cas de personnes qui avaient pleinement conscience en fait qu'on leur forçait à mettre une couche puis qu'elles ne pouvaient pas aller aux toilettes, puis elles avaient pleinement conscience qu'elles devaient faire leurs besoins dans leur culotte d'incontinence. Mm-hmm. C'était dans certains cas, il y avait des caméras dans les chambres là, que les familles avaient installées. On voyait que la personne était vraiment dans une grande détresse en raison de cette situation-là. Donc
effectivement, forcer quelqu'un à ses besoins dans une culotte d'incontinence, c'est parce que c'est ce que vous expliquez bien là. C'est pas parce qu'on est un aîné, c'est pas parce qu'on perd nos moyens en quelque sorte. C'est des fois le drame là, de certaines personnes plus âgées. C'est pas parce qu'on perd ses moyens qu'on perd ses droits.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. Par contre, justement, quand on perd ses moyens comme ça, on devient vulnérable. Et quand on devient vulnérable, on est moins en mesure de défendre ses droits. Et malheureusement, le système, lorsqu'il y a des compressions à faire, lorsqu'il y a des sacrifices à faire, ben, va toujours les cibler vers les gens les plus vulnérables, vers les gens qui ont le moins la capacité de défendre contre ça. C'est le cas pour les personnes âgées, c'est le cas pour les personnes déficientes intellectuelles, c'est le cas pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Mm-hmm. Et on le voit de façon systématique. Et ça, c'est inacceptable.
C'est inacceptable. Mais est-ce que l'institution peut se défendre en disant, ben écoutez, on manque de ressources et c'est comme ça et on doit par ce fait même agir de cette manière-là. Est-ce que c'est une sorte de défaite de dire qu'il manque de monde?
Je vous dirais, c'est une réponse qui est facile. C'est une réponse qu'on entend beaucoup. Et non, ce n'est pas une réponse qui justifie de prendre des mesures comme celle-là. Et surtout de les prendre à l'endroit des personnes les plus vulnérables. Comme on voit vraiment, c'est pas que je vous dirais, bon, évidemment, notre système de santé a un grand problème de ressources, un grand problème de personnel. Puis il y a des décisions, disons, au niveau systémique qu'il faut prendre pour changer des choses. Mais il n'y a rien qui justifie d'en venir à de telles mesures à l'endroit de personnes qui ne peuvent pas se défendre. Puis la dame en question est chanceuse parce que bon, elle a une famille qui, qui parle haut et fort, qui porte attention, qui vient la visiter. Imaginez ce que c'est pour la majorité. Les 80 à 90% de gens qui n'ont pas de proches aidants qui les visitent en CHSLD, qui sont isolés, qui sont laissés à eux-mêmes, ça doit être... ce qu'on voit là, c'est vraiment la pointe de l'iceberg.
Ah ouais, c'est terrible d'entendre ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens seuls. Merci infiniment, Maître Patrick Martin Ménard. Je sais que le monsieur va écouter votre entrevue. Là, vous faites un grand bien parce qu'il faut agir, il faut dénoncer ce genre de comportement-là. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Cube Radio.